France Inter.
Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, toit sur la tête, à loyer modéré, mais plus quand on gagne trop pour le logement social, départ ou surloyer. Le gouvernement présente les nouvelles règles des HLM, détail dans un instant. La campagne européenne débat Bardella hier soir, mais pour la majorité, le Premier ministre est aussi en campagne. Gabriel Attal fait la tournée des foires et des fêtes locales. Sciences Po Paris fermé aujourd'hui, des étudiants ont passé la nuit dans les locaux en soutien aux Palestiniens de Gaza. Le mouvement est aussi en train de prendre en Angleterre. Nous serons à Manchester et on en reparle, Ali et Marion, avec votre invité tout à l'heure.
Une légende du barreau qui a servi le droit pendant 65 ans, l'avocat Henri Leclerc, toujours président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, est notre invité. Question aussi sur les libertés publiques, la violence des mineurs, la justice.
La parole et l'action et vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France.
D'ici là, nous serons au Brésil. Le sud du pays est dévasté par les pluies, à Sarlat, où les urgences de l'hôpital seront totalement fermées aujourd'hui, faute de médecins. Et puis sur scène, pour un opéra rock oublié, il se rejoue ce soir à Paris la Révolution française. Bachung, Antoine et Balavoine jouaient dans la première version du spectacle il y a 50 ans.
France Inter.
C'est le premier poste de dépense des Français. Toujours plus cher et plus difficile à acheter comme à louer. Le logement en crise à tous les niveaux, même la construction est en panne sèche. Pour y répondre, le gouvernement ne mettra pas d'argent sur la table. Il mise sur le développement d'une offre de logement abordable. Titre du projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Le ministre du Logement veut donc changer les règles en HLM en s'attaquant à ceux qui gagnent trop pour y rester, soit en les faisant payer, soit en les faisant partir. Ça représente combien de personnes, Claire ?
Eh bien, cela concerne, selon le gouvernement, 8% des ménages du parc HLM et une petite partie d'entre eux, seulement 80 000, soit 3%, souligne-t-il, payent une majoration de loyer du fait de cette situation. Vrai, mais il y a une logique, explique Jean-Luc Vidon, bailleur social à la tête de la Fédération des associations régionales d'organismes HLM. Le surloyer démarre lorsqu'il y a un dépassement de 20% des plafonds de revenus.
Pourquoi 20%? C'est pour éviter que quelqu'un qui, une année, va toucher une prime et ne paye un surloyer. Mais si une hausse de revenus s'installe, ce ménage paye un supplément de loyer de solidarité. Donc ce dispositif existe déjà.
Mais avec ce texte, il devrait être appliqué désormais dès le premier euro de dépassement, 200 000 personnes potentiellement concernées. Et le seuil de sortie obligatoire du parc est lui aussi abaissé. Il passerait de 150% du plafond de ressources aujourd'hui à 120%.
Ce qui veut dire clair qu'un couple avec deux enfants devra quitter son logement à partir de 6 278 € de revenus en région, 8 711 à Paris. Le but étant de faire entrer de nouveaux ménages. Ils sont 1 800 000 sur liste d'attente. Hein.
Oui, car si les bailleurs sociaux contestent l'idée d'un logement social à vie, quel que soit le revenu, qui n'a jamais existé, disent-ils, la mobilité a bel et bien chuté. 500 000 sorties du parc par an en 2015, 400 000 seulement l'an dernier. La faute, selon eux, au loyer du privé qui bloque les ménages et à l'effondrement de la construction HLM. Sur ce point, pour redonner des marges de manœuvre financières aux bailleurs sociaux, le ministre veut les inciter à augmenter plus systématiquement les loyers lors de la remise en location des logements qui se libéreront.
Claire Chaudière, spécialiste logement de France Inter, le ministre veut aussi faire sortir ceux qui sont propriétaires par ailleurs. Les bailleurs auront accès aux informations du fisc. Il mise enfin sur le logement intermédiaire, à loyer plus haut qu'en HLM et plus bas que les prix du marché. Les maires pourront en construire davantage et les compter dans les quotas de logements sociaux obligatoires dans les communes.
Si vous voulez voter dans un mois, c'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales.
Rendez-vous dans votre mairie et vous pourrez ensuite faire votre choix pour les européennes. La campagne cette fois est bien lancée, avec un premier débat hier soir entre les deux têtes de liste en tête dans les sondages, Jordan Bardella pour le Rassemblement National et Valérie Ayé, la candidate de la majorité, en attendant un possible face-à-face entre le président du RN et le Premier ministre Gabriel Attal, lui aussi en campagne et sur le terrain, dans les fêtes et dans les foires, sans prise de risque, la Manche, le Loiret, demain à Jeun. Marie Mollet, la stratégie est la même que chez l'adversaire.
Gabriel Attal qui plonge un bulot dans la mayonnaise à la foire de Pirou et pousse la chansonnette. Gabriel Attal, accoudé au stand de Rome, ambiance fête foraine à la foire de Beaugency. Faire des selfies en cascade, surjouer les bons vivants, choisir des territoires amis pour s'épargner toute hostilité qui ferait moche sur les images. La recette de campagne ressemble à s'y méprendre à celle de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui depuis janvier documente sa tournée des foires rurales sur TikTok.
J'ai faim. Fini mon verre, j'y vais.
Alors, les députés RN crient au plagiat, comme dans le Loiret, Thomas Ménager.
C'est flagrant. C'est pas habituel pour un Premier ministre, c'est pas habituel pour Gabriel Attal de sortir de Paris pour aller sur des foires rurales. Donc oui, c'est un mimétisme, une volonté de plagier, de copier Jordan Bardella, mais je vous le dis, avec beaucoup moins de succès sur le terrain.
Il est vrai, depuis longtemps, Gabriel Attal a le souci de se déparisianiser et par ailleurs, il en est convaincu, mieux vaut de jolis déplacements festifs que des réunions publiques à moitié pleines d'électeurs déjà conquis, même si dans son entourage, on se défend d'imiter le rival. Chirac au cul des vaches, c'est aussi vieux que la politique. Le RN n'a rien inventé.
Marie Mollet du service politique de France Inter. Les locaux de Sciences Po Paris resteront fermés aujourd'hui, décision de la direction, alors que des étudiants occupent de nouveau les lieux depuis hier soir en solidarité avec Gaza. 6 d'entre eux se sont lancés dans une grève de la faim. Les forces de l'ordre sont en train d'arriver sur place. Le mouvement étudiant parti des États-Unis est aussi en train de gagner l'Angleterre avec des campements sur les campus à Sheffield, Bristol, Newcastle ou Manchester. Étudiants déterminés, propos virulents. Un reportage signé Richard Place à l'Université de Manchester.
Au milieu des bâtiments de l'université, des dizaines de tentes, rouges, bleues, vertes, plantées sur une pelouse. Des drapeaux palestiniens et des étudiants harangués par l'une d'entre eux.
Le campus que nous connaissions tous a changé. Les étudiants l'ont repris et disent « Le sionisme et tout ce qui est en lien avec ces crimes hors de l'université ».
Sue étudie les sciences politiques. Elle fait partie de ceux qui sont à l'origine de ce campement. Elle dort aujourd'hui sur ce qui s'appelle normalement Brunswick Park.
Nous nous sommes appropriés cet endroit et on l'a renommé. C'est le campement de résistance pour la Palestine.
Les revendications sont claires. La direction de la faculté doit rompre ses liens avec deux universités israéliennes jugées proches de l'armée, ainsi qu'avec BAE Systems, un fabricant d'armes britannique. Sinon, Lisa, étudiante en histoire de l'art, et tous les autres continueront de camper.
Mon diplôme n'est pas aussi important que la cause. Je peux encore l'avoir parce que je vais bien, j'ai un abri, des parents. Les Palestiniens n'ont pas tout ça. Si j'étais là-bas, je n'aurais pas pu passer mes examens librement.
La vie s'organise sur ce campement appelé à durer. Manchester, Richard Place, France Inter.
Et sur place à Gaza, le Hamas fait état de 28 morts en 24 heures. Les combats se poursuivent en attendant la réponse du mouvement palestinien à la proposition de trêve avec Israël. Au Brésil, le bilan s'annonce dramatique. 29 morts et des dizaines de disparus pour l'instant, victimes des pluies diluviennes qui noient l'état du Rio Grande do Sul. Un événement climatique extrême. Les images sont dantesques. Correspondance Jean-Mathieu Albertini.
Les ponts s'effondrent, les routes s'affaissent, des quartiers entiers sont sous les eaux et les glissements de terrain se multiplient. Depuis le début de la semaine, des pluies torrentielles martyrisent la région, des dizaines de milliers de personnes sont affectées et la situation va encore s'aggraver, prévoit le gouverneur de l'État, Eduardo Leite.
C'est déjà le plus grave désastre climatique de notre région et ça va être pire. Depuis mardi, on mobilise ce qui est possible, mais il y a encore beaucoup de perturbations climatiques, ce qui gêne les vols nécessaires au secours, avec des conséquences très graves. C'est pour ça que le nombre de morts est totalement provisoire.
De nombreuses personnes sont du coup isolées, sans pouvoir être évacuées. Lula s'est rendu sur place pour participer à une réunion de crise et en plus de mettre des moyens à disposition, il appelle à s'attaquer aux causes des événements climatiques extrêmes.
C'est déjà le deuxième événement du genre en moins d'un an ici. Il faut absolument qu'on se mobilise pour mieux prendre soin de notre planète Terre.
Les autorités craignent de voir certains barrages se rompre alors que les précipitations devraient encore s'intensifier durant au moins les 3 prochains jours. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
En France, les urgences de Sarlat seront donc totalement fermées aujourd'hui. Pas simplement l'accueil, mais le service tout entier jusqu'à demain matin, 8h30, parce qu'il n'y a pas un seul médecin pour accueillir les malades. L'hôpital n'a pas trouvé de remplaçant. Didier Couteau dirige l'agence régionale de santé de Dordogne.
Les urgences de Sarlat sont fermées. C'est une situation absolument exceptionnelle. On a vraiment cette situation où on n'a pas d'urgentiste pendant une période de 24 heures. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel puisque ça n'arrive jamais. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de prise en charge puisqu'on a toujours des médecins dans les étages et puis on a toujours une infirmière d'accueil et d'orientation qui est positionnée au niveau des urgences. Donc très clairement, les consignes, c'est évidemment de faire le numéro d'urgence 15. Il y a toujours une possibilité d'aller vers la personne et de faire un diagnostic pour voir s'il y a vraiment une urgence vitale. Et dans ce cas, il peut y avoir un déplacement vers les urgences de Gourdon, de Bergerac ou de Périgueux.
Le directeur de l'ARS, l'agence de santé de Dordogne, joint par France Bleu Périgord, selon lui, en l'état des plannings, une nouvelle fermeture des urgences pourrait avoir lieu à la fin du mois. À l'hôpital de Cannes, ce sont des milliers de données qui ont été volées le mois dernier, elles viennent d'être publiées sur Internet, car l'hôpital n'a pas payé la rançon demandée par Lockbit, groupe cybercriminel considéré comme le plus nuisible au monde. On le pensait justement hors d'état de nuire, Manon Derdevet.
Des bilans de santé, des cartes d'identité ou encore des bulletins de salaire. Autant de données personnelles diffusées sur le Darknet par Lockbit. Le groupe numéro 1 du cybercrime qu'on pensait démantelé après une vaste opération internationale en février. Avec la cyberattaque de l'hôpital de Cannes, il revient et frappe fort, selon Clément Domingo. Ce hacker éthique traque Lockbit depuis des années.
Lockbit, c'est un peu, entre guillemets, rené de ses cendres. On peut interpréter ça comme envoyer un signal fort aux concurrents en leur disant non, on est toujours présent, on est toujours les numéros 1. C'est envoyer aussi un autre signal aux forces de l'ordre en disant bah non, l'opération, le coup d'arrêt que vous nous avez mis, il était juste temporaire et pas du tout définitif.
Le groupe le plus actif de rançongiciel au monde, véritable multinational, il fonctionne avec un système de franchise et des centaines de pirates indépendants affiliés à travers le monde. Un réseau très difficile à juguler et qui pourrait multiplier ses attaques en France ces prochains mois.
Pendant les Jeux Olympiques, on va se faire malmener de partout. Depuis 2019, Lockbit, c'est quand même pas loin de 2600 entreprises dans le monde qu'ils ont attaquées.
Depuis le début de l'année, Lockbit serait à l'origine d'une trentaine de cyberattaques en France.
Manon Derdevet, voilà qui ne va pas arranger la circulation en Ile-de-France. L'autoroute A6 B est fermée dans les deux sens aux portes de Paris ce matin, à la suite d'un incendie dans le tunnel de Bicêtre. On rappelle que la 13 est elle aussi fermée dans l'ouest de la capitale. Et loin du bitume et des odeurs de gaz d'échappement, nous voici à Chédigny, en Indre-et-Loire, commune labellisée village jardin remarquable grâce à un travail de longue haleine depuis les années 80 pour mettre en valeur la commune sans patrimoine particulier et en dehors des circuits des châteaux de la Loire. Paris payant, Chédigny attire aujourd'hui des milliers de touristes. Elle séduit aussi de nouveaux habitants, une centaine d'administrés supplémentaires depuis 15 ans. Reportage Béatrice Duguet.
Le plus remarquable dans cette aventure, c'est que le village n'a pas vraiment d'atout architectural, remarque Xavier Mathias, agriculteur et conférencier installé dans le village.
Ce sont les plantes qui mettent en valeur le bâti. C'est tout à fait étonnant.
Le végétal a également pacifié une circulation pléthorique dans les années 80. Pascal Duguet, le maire de la commune, est bien placé pour en parler.
Des voitures, des tracteurs, des camions, des mobilettes, des motos, tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement changé, on n'a plus du tout ça.
Les piétons, les vélos sont les rois dans un village envahi de rosiers, de dahlias, de lys, d'astères qui embaument. Ces touristes en jouissent littéralement.
On essaye de sentir tout, donc c'est agréable.
C'est un plaisir olfactif, enfin sensoriel.
Pascale, la postière, a fait le choix, elle, de venir vivre à Chédigny il y a 5 ans.
Le matin, on se lève, on est dans le jardin, quoi. Ça sent bon, il n'y a pas que les glycines, il y a plein de sortes d'arbustes.
Des variétés renouvelées par le jardinier en chef, adaptées aux nouvelles conditions climatiques et à toutes les saisons aussi. Les touristes et les habitants ne sont pas loin de penser que Chédigny pourrait être prescrite sur ordonnance.
C'est même pas une question de dire oui, c'est beau, c'est en plus on se sent bien ici.
Ça nous oblige à nous poser, à prendre du temps pour nous aussi.
On est au-delà de tout, là. On décompresse complètement.
Le village fait des adeptes, en tout cas. D'autres communes viennent en prendre de la graine auprès des trois jardiniers de Chédigny.
Reportage Béatrice Duguet avec de vraies abeilles dedans. Guillaume Meurice ne sera pas à l'antenne ce dimanche sur Inter. L'humoriste a été suspendu par Radio France et convoqué à un entretien préalable en vue d'une possible sanction. Dimanche dernier, il a répété sa blague polémique sur Benjamin Netanyahou. La plainte déposée contre lui pour ses mêmes propos du mois d'octobre ayant été classée sans suite. Ils avaient valu à Radio France une mise en garde de l'Arcom. Rien de trop facile pour les Français en Coupe d'Europe de football. Décidément, devant son public bouillonnant au Vélodrome. L'OM a fait match nul hier soir, un but partout en demi-finale aller de Ligue Europa face aux Italiens de Bergame. Rendez-vous jeudi prochain pour le match retour. Enfin, voici un opéra rock oublié. La Révolution française, jouée en 1973, jouée et créée d'ailleurs. Il avait tout pour être mythique, vu sa distribution et ses auteurs, Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui avaient ensuite créé Les Misérables. La comédie musicale sera, figurez-vous, redonnée à partir de ce soir à Paris au 13e art, 50 ans plus tard. Julien Baldacchino a assisté aux répétitions.
Il y a 50 ans, Alain Bachon ou Daniel Balavoine jouaient dans la première version de ce spectacle, qui est un morceau d'histoire de la comédie musicale en France, pour Pierre-Amar Chalal, producteur indépendant à l'origine de cette reprise.
La Révolution française, c'est en 1973. Quatre copains qui sont dans l'industrie du disque, qui se disent, après avoir vu Jésus-Christ Superstar à Londres, pourquoi pas faire un opéra rock français. La première a eu lieu le 2 octobre 1973. C'est 6 ans avant Starmania et 7 ans avant Les Misérables. Depuis, aucune production professionnelle n'a reproduit le spectacle.
Pour cette version 2024, de nouveaux arrangements musicaux ont été écrits et cette fresque est désormais portée par une troupe paritaire qui met aussi en avant le rôle des femmes dans la Révolution. Bonnet phrygien sur la tête, Clara Poirieux joue le rôle de Marianne.
Le metteur en scène a eu cette volonté de moderniser aussi en ramenant des femmes. On pense historiquement il y a beaucoup d'hommes, mais mine de rien, même historiquement, il y a eu aussi beaucoup de femmes. Elles étaient déjà présentes à l'époque. Ça modernise le spectacle de les mettre aussi un peu sur le devant de la scène, de raconter leur histoire.
Autre spécificité du spectacle, le public découvrira un Robespierre joueur de basse, car les musiciens sur scène sont aussi des comédiens de la troupe. La peau d'église, moi j'en fais remise,
mon droit de chasse La Révolution française, ça sent toujours bon les années 70, et donc au 13e art à Paris, avant le retour des Misérables, grand succès français et à l'international, de retour à Paris avant la fin de l'année pour la première fois depuis 30 ans.
Et vous pouvez enlever votre bonnet phrygien, Florence Paracuellos, il est 8h16 sur Inter.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Céline Dacosta, le soleil brille déjà largement près de la Méditerranée.
Oui, il va briller toute la journée. Il brillera également généreusement en Corse cet après-midi parce que ce matin, il reste quand même quelques averses sur l'ouest de l'île. Partout ailleurs, c'est plus changeant avec encore quelques gouttes ce matin près des frontières du Nord mais aussi du Jura aux Alpes et puis surtout une nouvelle perturbation. Elle arrive par l'Atlantique avec les premières averses ce matin entre le sud de la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine. Des averses qui vont devenir orageuses cet après-midi et puis surtout, elles vont gagner du terrain dans les terres avec un ciel partagé. Entre nuages et éclaircies, retour à un temps sec et plutôt ensoleillé, ça c'est pour la pointe nord. Ça va rester faiblement pluvieux du Jura aux Alpes avec un petit peu de neige au-dessus de 1700 mètres.
Et pour les températures, c'est un peu frais ce matin par endroit.
Oui, surtout là où le ciel a été dégagé cette nuit. 4 degrés par exemple à Clermont-Ferrand, 6 à Rennes, 8 à Bordeaux, ça grimpe un petit peu ailleurs. Hein. 10 à Paris, 12 à Toulon, 15 à Ajaccio. Ça grimpera également cet après-midi, on va gagner quelques degrés mais on va rester sous les normales de saison puisque la moyenne ira de 12 à 20 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter, il est 8h18.